Chapitre 5. 10 décembre 1914. Je regarde la dernière de mes notes. 19 août. Depuis, une vie entière a passé sur nous avec quelle rapidité. Chaque jour, notre vieux facteur, ancien gendarme, nous disait « Ça ne va pas, madame, ça ne va pas !» Nous entendions le canon, mais avec la conviction que jamais les Allemands n'atteindraient notre contrée. Bientôt, des gens qui fuyaient passèrent près de Fleurs et jetèrent les mois dans la population. Ma mère, affreusement perplexe, hésitait à prendre un parti lorsque nous apprîmes, du moins on nous l'assura, que l'ennemi n'avançait plus et que, vraisemblablement, nous n'étions sous aucune menace. Mais le sourd-roulement du canon, les nouvelles alarmantes, nous tenaient en alerte. Olga mourait de peur et voulait fuir. « Pourquoi rester? Allons-nous-en, fermons tout !» Plusieurs de nos voisins sont partis. À quoi sert notre présence ici? Que ferions-nous si les Allemands arrivaient? Rien. Mais ma mère blâmait l'effroi d'Olga et s'irritait même de ses instances. Elle répétait « Où l'ennemi viendra, et en abandonnant notre domaine, nous le livrons à la dévastation, ou il ne viendra pas, et alors notre place est à fleur. En conservant du sang-froid, nous soutenons la population et nos ouvriers. » Mais on voyait qu'Olga, très pâle, ne supporterait pas longtemps l'angoisse de la crainte. Aussi, je décidai ma mère à la conduire sans tarder à Paris, chez une parente qui nous offrait l'hospitalité. « Vous et moi, nous resterons ici, en attendant que le danger soit sûrement écarté. En tout cas, ce danger n'est pas imminent. » Toutefois, plus inquiète que je ne l'avouais, je décidai en moi-même de prendre des dispositions urgentes pendant la courte absence de ma mère. « Pas avec nous, Marguerite, me dit-elle, nous reviendrons ensemble. »« Non, non, je reste. Vous n'avez nul besoin de moi et dans 2 jours vous serez revenu. N'attendez pas, je vous en prie. Olga souffre au-dessus de ses forces. Elle a causé avec des gens qui l'ont effrayée outre mesure. D'ailleurs, quel inconvénient à se séparer d'elle pendant un certain temps. » Ma mère se laissa convaincre et partit le lendemain même pour Paris. Je croyais la revoir quelques jours après, tant était grande notre ignorance des faits réels. J'employai les journées suivantes à cacher des objets de valeur et les portraits de famille que nous descendîmes dans un caveau. Je remis préventivement à Muret une somme d'argent à distribuer aux ouvriers afin que, le cas échéant, ils puissent se disséminer et se réfugier dans une région plus tranquille. La prudence n'amène pas le malheur, dis-je à Muret qui protestait. Supposez que les Allemands arrivent, s'ils trouvent des ouvriers agglomérés, ils les emmèneront. Tous les jeunes sont alarmés, mademoiselle. Pourquoi emmèneraient-ils les autres? Qu'en feraient-ils? Pourquoi? Pour le mal. Les rumeurs qui nous parviennent ne sont pas rassurantes. Du reste, vous êtes tous de bons travailleurs, ils vous utiliseraient. Les ouvriers ne vous abandonneraient pas, mademoiselle. Je le sais. Il ne s'agit pas de m'abandonner. Il faudrait céder à la force. Du reste, nous partirions probablement si le danger devenait plus sérieux. Préparez les esprits, Muret, et fermez tout dans l'usine. Quant à vous... Oh, moi, je reste, mademoiselle, me dit-il d'un ton qui rendait impossible toute discussion. Le lendemain, nous n'entendîmes plus le canon que dans l'éloignement. Je m'en félicitais, mais Muret, le curé et un second contremaître, ancien militaire, s'inquiétèrent subitement, je le sus après. À 16 heures, le canon tonna tout à coup et si près de nous que des projectiles tombèrent dans les bois de fleurs. Ma mère avait emmené sa femme de chambre, aussi effrayée qu'Olga, le valet de chambre était mobilisé, le chauffeur également. Je n'avais près de moi que la vieille cuisinière, qui n'a peur de rien, son neveu, enfant de 11 ans, et le jardinier qui m'avait dit un jour « J'approuve, madame, de ne pas abandonner sa propriété. Ils seront arrêtés avant d'arriver jusqu'à nous. Quoi qu'il arrive, mademoiselle, je ne bouge pas d'ici. » Il accourut et nous trouva, Justine et moi, plus surprises qu'effrayées. Ils se sont approchés sans que nous nous en doutions. « Ils visent Fleurs, mademoiselle, mais les Français ne sont pas loin, m'a-t-on dit. Vite, mettez-vous à l'abri. »« Pourquoi viseraient-ils Fleurs ? » demandai-je. « Ils tâtent le terrain, sans doute. » Si personne ne riposte, ils vont arriver et si nos troupes s'en mêlent, vous serez prise entre deux feux. Mais où aller? Je ne vous conseille pas les caves. On ne sait jamais. Si la maison s'écroulait... Dans les ruines. Elles sont enfouies. En effet, elles ne pouvaient, cachées dans les arbres, servir de point de mire, du moins je le croyais, pauvre innocente que j'étais. Mais vous, Simon, venez aussi. Je ne veux pas que vous restiez s'il y a tant de dangers. Je saurai bien m'abriter, que mademoiselle ne s'inquiète pas. J'hésitais encore lorsque nos bus fracassa plusieurs arbres du parc. Vite, mademoiselle, vite! Justine, qui conservait son sang-froid, empila pêle-mêle des provisions dans un panier et prit des manteaux pour la nuit. Son neveu avait fui et nous devions le retrouver dans le bourg où, plus intelligent que moi, il s'était réfugié. Nous n'avions pas fait 100 pas sur le coteau qu'une voix nous arrêta. C'était le curé qui arrivait tout essoufflé. Je lui expliquai mon idée. Dans les ruines, l'ancienne buanderie était voûtée, basse, et nous protégerait. Nous y passerions assez tranquillement la nuit. Je m'en doutais. J'accours pour empêcher une telle imprudence. Que peut une voûte contre les obus? Les Allemands chercheront vraisemblablement à s'établir sur le coteau. Il faut descendre et vous réfugier en bas. Suivez-moi, mademoiselle. S'emparer du coteau, évidemment. Comment une idée si simple m'avait-elle échappé? Nous suivîmes l'abbé Guérard, qui, tout en marchant, me disait « Je ne reconnais pas votre sagesse habituelle, mademoiselle Marguerite. » « Je ne croyais pas avoir perdu la tête, monsieur le curé, et je me trompais. » Il est certain qu'après cette aventure, je n'aurai jamais une haute idée de ma tactique militaire. « Où allons-nous, monsieur le curé ?»« Dans la carrière de la mère Barin, au fond de la grande galerie. » Il n'est pas certain que... » Un obus lui coupa la parole. Il tomba à quelques mètres de nous, mais sans éclater. Nous nous jetâmes dans le taillis. « Je suis fou aussi, moi, de vous conduire par ce chemin découvert. Il vise !» Après nous être faufilés par de petits sentiers, nous arrivâmes derrière le bourg. 2 minutes plus tard, nous entrions dans la galerie. « Restez là, mademoiselle, vous y passerez certainement la nuit. » « Et vous, monsieur le curé ?»« Moi, ma place est au presbytère. Si les Allemands s'installent dans le bourg, je veux protéger mes ouailles. »« Et s'ils vous emmènent, s'ils vous fusillent, que sais-je ? Restez ici !»« Allons donc, est-ce vous qui me donnez un tel conseil ? S'ils fusillent un homme de 72 ans, honte sur eux, voilà tout. »« Eh bien, je vais avec vous. Au surplus, je devrais être au milieu des ouvriers et de leurs familles. » « Du tout, j'ai en quelque sorte la responsabilité de votre sûreté. Que dirait votre père si... » Il continua sur un autre ton. « Obéissez, cher enfant, donnez l'exemple. Les familles de nos ouvriers ont déjà reflué au bourg. J'enverrai les femmes se réfugier ici, c'est dire qu'elles auront besoin de votre soutien moral. Entendu, n'est-ce pas ?»« Entendu, répondis-je, comprenant que c'était à moi de donner l'exemple de la discipline. Sorti de mon étourdissement, je m'adressai d'amers reproches en pensant que mon premier mouvement avait été de m'abriter au lieu de descendre au village où ma présence pouvait être utile. Le curé était parti en courant et, quelques minutes après, une 50aine de personnes nous rejoignaient. Femmes et jeunes filles pleuraient. Les enfants, terrorisés par le bruit du canon, les éclatements d'obus, semblaient figés. Justine, courageuse et bonne, m'aida à soutenir toutes ces pauvres créatures effrayées. « Où sont les ouvriers du village ? » demandai-je à une femme, plus calme que ses compagnes. « Les hommes sont avec monsieur le curé. Si c'est nécessaire, il les fera descendre dans la crypte qui a 2 issues. Mais ils n'avaient pas envie de se terrer, mademoiselle. » Monsieur Muret est comme un enragé, il leur monte la tête. Pauvre Muret, que pouvait-il faire? Rien, malheureusement. Quand j'approchais de l'entrée de la galerie, j'entendais tonner le canon de différents côtés, avec des sons divers que je ne savais pas reconnaître. Monsieur le curé, contre toute prudence, vint nous voir à 8 heures. Il bombarde Fleur et la raffinerie, mais depuis 1 heure, nous ripostons. « Ne bougez pas, ce sera chaud. » et sans m'écouter, il retourna chez lui. « Les Français nous défendent, » dis-je simplement aux femmes. « Préparons-nous à passer la nuit ici. » Une partie de la galerie servait d'abri à des paillers. Nous fîmes des couchettes pour les enfants et les femmes en préparèrent pour elles-mêmes, mais impossible de dîner, car les provisions de Justine ne suffirent pas à calmer la faim des petits, qui, heureusement, s'endormirent rapidement. Bientôt, les femmes s'arrangèrent pour la nuit et j'eus la satisfaction de les voir s'assoupir. Je pus alors concentrer mes pensées sur les dangers qui nous environnaient. Ces dangers, dont j'ignorais encore les plus graves, se présentaient à mon imagination sous une forme assez vague. À moins d'imprudence, nous ne pouvions être ni tués ni blessés, mais si les Allemands prenaient le bout, nous serions trouvés, et c'était l'inconnu. Je pensais surtout à mon père, que je voyais par l'esprit dans un engagement plus terrible que celui dont le fracas me parvenait de plus en plus distinctement. Et Christian, dont les dernières nouvelles étaient datées du 18 août. Vivait-il ? Chose étrange, je me posais avec calme cette question terrifiante. Par moments, je regrettais d'avoir quitté Fleur, où, ainsi que je le constatais plus tard, j'aurais été tué. Les Allemands, en effet, cherchèrent à s'emparer du coteau, mais, placés sous le feu du 75, ne purent y parvenir, même passagèrement. Vers 3 heures, je ne résistais plus au désir de voir et d'écouter. Je sortis de la galerie. Ce n'était plus la rafale. Le canon s'entendait encore, mais de façon intermittente et plus éloignée. L'action immédiate semblait terminée. Au-dessus d'un rideau de hêtre, une grande lueur s'élevait et de violentes explosions me secouaient, bien que je fusse à 1500 mètres du sinistre. Fleur ne brûlait pas, l'incendie eût dominé la colline. Était-ce la raffinerie ? Je rentrai dans la galerie où les pauvres femmes, après la douloureuse agitation de la veille, dormaient d'un sommeil tranquille. Avant de m'éloigner, j'avais allumé une bougie donnée par le curé. Elle brûlait entre 2 pierres qui la calaient et, à sa lueur, Justine m'avait vu sortir. Elle s'approcha près de moi. « Que se passe-t-il, mademoiselle ? Le vacarme s'est calmé. Venez !» Elle regarda et laissa tomber ses bras avec consternation. « C'est la raffinerie, mademoiselle ! C'est la raffinerie ! Oh, pauvre monsieur ! Lui qui l'aimait tant !» Brave fille, elle pensait avant tout à mon père. À 5 heures, le curé arriva et toutes les femmes, debout déjà, l'entourèrent. « Le mal n'est pas très grand pour le bourg, mes enfants. Quelques hangars écroulés, le presbytère et le clocher écornés. Tout est réparable, je crois, sauf la maison de Fenoux. Mais dans le village de Fleurs, c'est bien différent. La plupart des maisons sont par terre. » Les femmes, sans trop se lamenter, se tournèrent vers moi. « Mademoiselle, nos maisons, notre mobilier, nous n'avons plus rien. »« Nous aviserons, ne vous désolez pas, nous ne vous laisserons pas sans rien. »« Vous pouvez sortir, » reprit le curé, « les Allemands sont partis et ne reviendront pas. J'ai causé avec des officiers français qui sont rassurants. » Il me regarda avec une expression significative. « Je vais voir, » dis-je, « et moi je vous accompagne. » Le bourg était encombré de troupes françaises, mais je n'avais pas à le traverser. Je pris, sans m'arrêter, le grand chemin qui mène de B à la fabrique. Nous croisions des soldats, des pièces d'artillerie. Les unes, lancées au grand galop, s'en allaient plus loin prendre position. La route était jonchée de branches et d'objets confus. Je remarquai avec étonnement plusieurs wagonnets de la raffinerie. Projetés au loin, ils étaient venus se briser sur la route. L'un d'eux, tombé dans la terre molle d'un champ, paraissait intact. Des arbres, cassés par la moitié, pendaient lamentablement. Les débris de la grande raffinerie brûlaient encore. Éventrés sur une longueur de 3 hectares, les toits arrachés, on voyait à ciel ouvert les machines brisées, anéanties. Les bureaux, le vestiaire, l'infirmerie, la pharmacie, les maisons des contremaîtres, les hangars où le train de wagonnet apportait les betteraves, tout était détruit. Muret, assis sur une grosse pierre, contemplait le désastre. Son visage, pâli par l'émotion, encore plus par la colère, me parut extraordinairement altéré. « Canaille !» dit-il seulement. Les maisons du village, sauf une dizaine, s'étaient abattues comme un château de cartes. Je regardais, un peu hébété. Quoi, en si peu de temps, une destruction si complète? De tant d'années de travail, il ne restait rien. « C'est affreux !» s'écria le curé. « La destruction est volontaire, mademoiselle, » me dit Muret. « Je les ai vus. Quand ils ont compris qu'ils ne s'accrocheraient pas ici, ils ont incendié et lancé des explosifs. » Je levai les yeux vers Fleur. La maison était debout. Je n'en voyais pas les blessures, sauf un trou dans le côté droit. Ils avaient bombardé de loin et n'avaient pas eu le temps d'incendier. « On a toujours le temps de faire du mal, » répondit le curé à ma remarque. Lui et Muret, voyant que je me disposais à monter, proposèrent de m'accompagner. « Non, merci, je préfère être seule. » Après avoir jeté un regard d'horreur sur des cadavres allemands, je m'engageai dans le sentier toujours ombreux, car de son côté, aucun arbre n'était brisé. La voix chantante du ruisseau m'émut tout à coup comme un mot affectueux prononcé au milieu d'une grande détresse. Je me raidis et j'arrivai sur la plateforme. Elle disparaissait en partie sous les décombres. À part l'orangerie, les communs n'existaient plus. Un côté de la maison était béant, mais la partie principale avait en apparence peu souffert. Dans une allée, des officiers français causaient. Ils me saluèrent avec étonnement et l'un d'eux, un commandant, s'approcha de moi. « À qui ai-je l'honneur de parler, madame ?»« À mademoiselle Saint-Simiel, commandant. » J'expliquai que, malgré la surprise, j'avais pu me réfugier dans le bourg. « Heureusement, dit-il, en effet, c'est une surprise. Notre regret, ajouta-t-il courtoisement, est d'être arrivé trop tard pour sauver votre domaine, mademoiselle. Nous ne croyions pas qu'ils avanceraient de ce côté. Faute de leur part, erreur de la nôtre. Le désastre est grand, répondis-je, mais que de choses plus importantes à sauver. Vont-ils donc encore avancer? Ne seront-ils pas arrêtés? Si, mademoiselle, croyez-le bien. Ils ont gagné une première manche, mais c'est fini. La retraite des armées françaises est arrêtée au point choisi par le généralissime. Cette affirmation si nette me fit un bien extrême. J'essayai d'approcher de la maison et fus étonné des dégâts. L'escalier double du grand escalier à moitié brisé, les meubles en miettes, les boiseries et les portes arrachées rendaient inhabitable la partie que je croyais intacte. Les cuisines, en sous-sol, n'avaient aucun mal, et il était facile d'y pénétrer par leur sortie indépendante. Derrière l'habitation, un petit escalier n'avait pas été touché et conduisait à des pièces de réserve qui, à part les vitres pulvérisées, étaient indemnes. Je décidai aussitôt de m'installer dans ces chambres, car je comptais encore sur l'arrivée prochaine de ma mère. Je parlai de ses projets au commandant. « Madame Saint-Simiel sera certainement très retardée. Personne, d'ici quelque temps, n'obtiendra de laissez-passer pour cette région, mais j'espère que vos lettres lui parviendront. » Puis, se rappelant que des journalistes, installés dans un village voisin, partiraient le jour même pour Paris en automobile, il me proposa d'envoyer un soldat leur porter une lettre que ma mère recevrait ainsi le lendemain matin. « Et si vous vouliez partir avec ces messieurs, mademoiselle ?» « Je ne vois aucune impossibilité. Il pourrait toujours vous conduire, par un détour, à une grande ligne de chemin de fer. »« Croyez-vous à un nouvel assaut ?»« Non, certes. Sans cela, je vous ferai partir d'office, » dit-il en souriant. « Alors je reste. J'écrirai ma lettre et j'aviserai. Ma mère viendra sûrement aussitôt qu'elle le pourra. Je l'attendrai. Séjournerez-vous ici ?» Nous partons dans une heure. Notre artillerie, qui a chassé l'ennemi, se reporte plus loin. Mais pourquoi demeurer au milieu de ces ruines? Nous étions revenus devant la maison. Je lui montrai de loin la raffinerie détruite, les maisons abattues. Nos familles d'ouvriers en détresse. J'ai mon poste, moi aussi. Je dois tenir. Il s'inclina et je ne le revis plus, car j'envoyai Justine lui remettre le mot que j'avais écrit dans la cuisine. Depuis, j'ai appris qu'il avait été tué. Simple incident dans les malheurs universels. À peine avais-je écrit lettre et adresse que j'éprouvais une défaillance. Dans cette réaction subite, je me sentais si faible que lever la main me parut difficile et je me rappelai que, n'ayant pas dîné le soir précédent, je n'avais rien pris depuis le déjeuner de la veille. Justine me présenta un repas improvisé avec des restes et fit du thé qui nous ressuscita, car la pauvre fille, bien que ne se plaignant de rien, subissait, en même temps que moi, le contre-coup de nos émotions. Un peu remise, je descendis au village. C'était bien ce que j'avais vu. 10 maisons sur 50 étaient debout, mais avec des lézardes si profondes qu'il eût été impossible de les habiter. Du moins, les mobiliers serviraient encore. Pauvre village, créé, embelli par mon père pour le bien-être de ses principaux ouvriers. Dans le bourg où j'allais ensuite, et le presbytère n'avait d'enlevé qu'un coin de son toit. Le curé me répéta que toute la population était sauve, les habitants s'étant terrés dans des caves ou des carrières. Du reste, le bourg n'avait pas été positivement visé par l'ennemi et le 75 avait aidé à démolir. À quelques pas du bourg, une maison effondrée. Le propriétaire, à son retour de l'armée, ne verrait qu'un monceau de ruines. Ses récoltes de graines, sélection dont il était si fier, étaient en cendres. Je le plaignais. Avoir travaillé durement toute sa jeunesse et, au moment de recueillir le fruit de ses efforts, trouver le néant, des milliers d'autres avec lui, hélas. Plusieurs voitures d'ambulance arrivaient pour emporter les soldats blessés et déjà la terre se creusait pour enfouir les morts. Sur le passage de blessés allemands, la population ne manifesta aucune hostilité. Les uns disaient « Ils sont commandés, faut bien qu'ils marchent ». Mais la mentalité résignée des paysans n'est pas celle des ouvriers, et ceux-ci serraient les poings. Les familles du village, me sachant à baie, vinrent me demander conseil et me parler avec commisération de notre propre désastre. En attendant que les habitations fussent relevées, je les décidai à se loger dans le bourg et les villages voisins, promettant de les aider dans ces installations provisoires. Plusieurs maisons vides, des chambres d'auberge et des granges furent mises à leur disposition. Au premier moment, on s'empressa de les secourir et la bonne volonté de tous soulagea mon cœur oppressé. Dans la suite, les rivalités, la lassitude et les jalousies jouèrent leur rôle habituel. Que l'homme est donc un animal singulier ! Je remontai lentement à fleur après m'être arrêté devant le vaste champ de nos ruines. Muret m'attendait. Qu'allez-vous faire, mademoiselle ? Attendre ma mère. Elle viendra sûrement aussitôt le passeport obtenu. Elle est rassurée sur mon compte et, de ce côté, je suis tranquille. Avant son arrivée, nous essaierons de déblayer la plateforme. Les ouvriers m'aideront, n'est-ce pas ? Pauvres gens, ils sont bien atteints dans leur maison, leur jardin, ceux qu'ils aimaient. Eh bien, mademoiselle, je suis content de vous dire qu'ils pensent avant tout à leur magnifique raffinerie détruite. Détruite sans raison, pour le plaisir de détruire. Les brigands. Muret, qui est excellent mais violent, luttait à cause de moi contre la colère qui le possédait, seulement il n'obtenait aucun résultat. J'ai regardé sur une de ces canailles mortes le numéro du régiment. Si jamais il en tombe entre nos mains... Déjà, j'expérimentais que désormais, les lois de l'humanité et des bienséances sont renversées. L'un des sentiments pénibles qui souvent me font souffrir est celui de la haine amassée dans des millions de cœurs. Depuis l'attaque de Fleurs, la victoire de la Marne qui commençait a contenu, refoulé l'ennemi, la France est sauvée, je le crois. Mais la guerre et ses horreurs se prolongeront combien de mois, combien d'années peut-être. Dans ce cahier, où je croyais ne noter que la vie de mon âme, que les menus faits d'une existence tranquille, j'écris le récit d'une tourmente. J'eus la curiosité de monter aux ruines. J'y arrivai avec quelques difficultés. En vérité, je ne reconnaissais même pas le chemin dans l'étrange bouleversement qui me frappait de surprise. Les murs, debout la veille, s'étaient littéralement volatilisés. Les taillis, les gigantesques ormeaux, avaient disparu. À leur place, un amoncellement de choses, semblables à des cheveux frottés ensemble pour les emmêler. Sur ce coin plein de souvenirs, la meule terrible avait passé et l'aspect général s'était entièrement modifié. Je pleurais. Pourquoi ? Le lien qui nous attache au passé est-il plus fort que celui qui nous unit aux vivants ? Je ne le pense pas, et pourtant j'avais contenu mon émotion en face du désastre d'en bas. Pendant 8 jours, quelques ouvriers, malgré leurs propres soucis, travaillèrent courageusement à déblayer la plateforme de fleurs, et quand ma mère arriva, les abords de la maison étaient sensiblement dégagés. Son premier soin fut de s'arrêter à la raffinerie. Les ouvriers, prévenus de son arrivée, se groupèrent à quelques pas. « Marguerite, me dit-elle, c'est affreux sans doute de voir le résultat de tant de travail réduit à rien, mais si ton père et Christian sont épargnés, ah, je ne me plaindrai pas. Christian, où est-il ? » Elle donna la main au contremaître. « Je voudrais serrer la main de tous, dit-elle aux ouvriers. C'est dur, n'est-ce pas ? Vos pauvres maisons détruites. Et puis, vous l'aimiez, cette grande raffinerie où vous avez mis tant de votre vie. Mais nous l'édifierons de nouveau sur des plans plus petits. En tout cas, vos maisons seront reconstruites. » Reconstruire. Les maisons, oui, mais la fabrique. Cette perte engloutissait les 2/3 de notre fortune, et à l'âge de mon père, recommence-t-on une vie d'intense travail ? Toutefois, le mot encourageant de ma mère me fit plaisir. Il portait. Je le compris à l'expression de ces hommes qui avaient vieilli avec mon père et partagé ses labeurs. Muret, qui ne voyait pas les ruines sans s'exaspérer, répétait d'une voix entrecoupée « Ah, les canailles, si je les tenais !» En contemplant la destruction partielle de fleurs, ma pauvre mère fut plus faible. Elle était sensible à la perte des objets auxquels se rattachaient tous ses souvenirs. Mais elle avait un caractère trop ferme pour ne pas se ressaisir promptement. D'après tes lettres, je ne croyais pas le mal aussi grand. Mais quand je pense, Marguerite, à ce qui aurait pu arriver si tu étais restée à fleurs... Le mot, surtout l'accent, me parurent très doux. L'affection de ma mère pour moi n'est pas démonstrative et ses paroles affectueuses ont à mes yeux une valeur d'autant plus grande. Je la fis monter dans une des chambres à peu près intacte. Pendant que nous causions et décidions de rejoindre momentanément Olga à Paris, Justine arriva en courant et nous remit une lettre. « De Monsieur Christian !»« Quel jour je viens de passer et passe encore, disait-il. Notre retraite est stratégique, ne vous inquiétez pas. Mais reculer nous met en rage. Bientôt, nous nous vengerons par une victoire. Le général Joffre a son plan bien déterminé. Au revoir, chère mère, au revoir à tous, j'écris ces lignes à la hâte, nous sommes en marche. » Sa lettre voyageait depuis 12 jours. « Il vit !» dit ma mère rayonnante. Il vivait, et je me rappellerai toujours comment, dans cette minute, s'allégea mon secret accablement. La pensée ne nous vint même pas que, pendant le long trajet de la lettre, une balle avait pu le frapper. Depuis, nous l'avons revu. Il nous a conté la terrible bataille de Charleroi, les combats de la retraite et enfin l'allégresse de la victoire. Il traversa encore des époques de fer et d'horreur, mais celui qui écoute la plainte du passereau écoutera peut-être ma prière. « Ô Dieu, prenez ma vie et sauvez cet être de choix !»